Bienvenue au Voyeur de vue, un podcast pour ceux qui sont éternellement devant les écrans et devant les micros cette semaine. Il y a moi-même, le susmentionné Yannick.
Et moi, Alex Rose.
On va commencer avec des petites nouvelles de cette semaine. Oui. Petites nouvelles de la semaine, mon cher Alex. Les Voyeurs de vue pousseraient un projet de loi afin de pouvoir augmenter leur salaire de 50% afin de pouvoir en donner plus à leurs neveux.
Ah bon?
Est-ce que c'est vrai ce qu'on lit dans les journaux?
Pardon?
Apparemment que les voyeurs de vue essaient de faire passer le projet de loi pour qu'ils soient encore plus payés pour leur podcast parce qu'ils veulent en donner plus à leurs neveux.
Je vois, intéressant.
Alors, on leur souhaite bonne chance.
C'est tough out there pour les neveux.
Pour les neveux, puis les podcasteurs qui veulent donner de l'argent à leurs neveux. Regarde, moi, j'ai juste vu ma mère comme une fois cette année à date. Fait que j'ai besoin d'au moins de 30 000 piastres de plus dans mon salaire. Mais, Trève, écoute, on est tout en train d'écouter les apartistes là, avec ces blagues d'humour-là. On va passer à nos films de la semaine, mon cher.
Ben oui, pourquoi pas.
Moi, je vais aller avec un film qui est tout frais dans ma mémoire. J'ai vu deux films aujourd'hui, dont un, j'ai commencé ma journée avec, qu'on va parler plus tard.
Oui.
Le film québécois de la
ça
semaine.
Ça commence très mal la journée. Moi, j'ai terminé ma journée d'hier avec, fait que tu sais... Whoever wins, we lose un peu.
Il n'y a peut-être aucun bon moment de la journée pour visionner ce film-là. Ouais. Mais ce que j'ai vu plus tard en après-midi, j'ai vu The Boogeyman, qui est réalisé par Rob Savage, adapté de nouvelles de Stephen King, qui, comme tu me disais tantôt, était comme une nouvelle pré-Carrie, qui met en vedette Sophie Thatcher, que certains ont vu dans Yellow Jacket ou dans The Book of Boba Fett l'an dernier, Chris Messina, qui est aussi, lui, dans plein de choses, un short
dans
king.
Tous les films de Ben Affleck, réalisés par Ben Affleck.
Oui, c'est vrai.
Donc, on va parler de lui par la bande souvent ici.
Oui, fait qu'il était l'agent dans Air.
Ouais, exact.
Fait que aussi Vivienne Lyra Blair, que certains se rappelleront de elle dans le rôle de la jeune princesse Leia dans la série Obi-Wan, et David Dasmalchian, qui est dans plein de choses. Alors, dans ce film, c'est après la mort de leur mère, une adolescente, puis sa jeune sœur sont la proie d'un monstre agressif et intangible qui est ignoré par leur père parce que lui aussi est figé dans son propre deuil. Alors, c'est avant Carrie, c'est comme du proto-proto Stephen King qu'on a vu, qu'il aurait fait plusieurs fois. Et il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais tu sais, des prémices de films d'horreur classiques ou typiques, c'est comme un peu un chemin ou des rails pour essayer de créer autre chose.
Ouais,
ou de vraiment ricocheter de ça.
Ben, dans le meilleur des mondes, mettons.
Oui, idéalement. Ben justement, je suis là pour dire que The Boogeyman n'est pas vraiment ça. tu sais, c'est les acteurs sont tous très bons, mais le reste, c'est vraiment comme redondant et générique. T'sais, le tiers du film, je te dis qu'il y a des corridors ombragés à n'en plus finir, d'enfants qui sont comme en train de checker dans les ténèbres, puis des portes entrouvertes, voir si un monstre va sortir ou non. Il y a vraiment beaucoup de ça. Moi, il y a... Tu sais, encore là, j'ai des lacunes en horreur, mais l'affaire qui m'a formulé le plus mon sens de l'horreur étant jeune, c'est écouter The X-Files en entier. Puis ça, c'est vraiment comme quelque chose que j'aurais qualifié d'un épisode d'X-Files plate.
Ouais,
mais
ouais.
Que je suis comme, ah, ben au moins, j'ai passé du temps avec Mulder et Scully dans cet épisode.
Mais c'est Rob Savage, le réalisateur de ça, il a fait majoritairement des films de found footage, je pense. Fait que, tu sais... C'est aussi comme une différence de ton là, pour lui, là, j'imagine. J'ai juste vu Dashcam, qui était, ma foi, extrêmement déplaisant à regarder. Parce que ça met en vedette une fille qui est extrêmement conspire et fatigante et qui est peut-être vraiment comme ça dans la vraie vie. Donc, elle ne joue pas vraiment de rôle, peut-être, d'accord, dans le film. mais tu sais, c'était relativement efficace pour ce que c'était. Mais c'est pas tous les réalisateurs, mettons, qui sont capables de tout. Ce sont pas tous des Mike Flanagan. T'sais, que c'est comme peu importe quelle affaire d'horreur tu me pitches par la tête, je vais en faire un projet digne de ce nom. Puis je pense que des fois, le monde se font un peu pigeonhole dans le rôle de réalisateur d'horreur quand peut-être que faire un found footage puis faire un film de fantôme, c'est deux affaires complètement différentes.
Ben oui, c'est ça. Fait que t'as les acteurs, comme je dis, sont très bons. T'sais, ils mettent le plus de poids qu'ils peuvent dans le matériel. Puis on dirait que... Tu sais, j'aurais aimé ça. Je trouve que c'était quelque chose qui se... Moi, puis selon mes goûts à moi, j'aurais aimé ça soit un petit peu plus pop. Pogne un 12 pour tirer le monstre. versus quelque chose comme il essaie d'aller beaucoup justement dans le deuil de la famille, mm-hmm. puis de on dirait de dipper un peu dans ce qui a été appelé le elevated horror, c'est de mm-hmm. l'horreur plus classique, plus fancy. Tu sais, les acteurs qui sont dans le film sont capables de faire ça, mais le reste du film autour d'eux est un petit peu plate. C'est vraiment pas un long film. Là. Il caresse le 100 minutes, puis là, j'étais comme, oh shit, ceci est long. Là. C'est ça, c'est le Boogeyman. Il sort ce week-end. Ou non, je pense qu'il sort même la semaine prochaine. L'embargo va être levé, cependant. Et, tu sais, à moins que vous êtes dans une affaire comme, hey, les grosses sorties au cinéma ne m'intéressent pas, mais mettons, j'aime cette actrice-là de Yellow Jacket ou j'aime mon boy Chris. Allez-y, il y a une barbe, il est très hadi dedans. Mais sinon, je peux pas vraiment le recommander tant que ça, je te dirais. Là.
Moi, j'ai regardé un film qui est quand même. Dont on a déjà parlé peut-être un petit peu au voyeur de vue, parce que je crois que j'en ai parlé quand j'ai travaillé sur ce film.
Il y a un film,
le seul film sur lequel j'ai jamais travaillé, dans le fond, est sorti au cinéma il y a à peu près un mois, dans la plus grande indifférence. Et c'est retrouvé en VOD quelques peu de temps après. J'imagine que ça a toujours fait partie de la stratégie. Mais donc, évidemment, j'ai pas la même perspective sur ce film. To Catch a Killer de Damien Sifron que j'ai sur les autres films dont on parle ici. T'sais, parce que j'ai lu le scénario, j'ai lu plusieurs versions du scénario. J'étais dans des meetings de production un peu quand même. J'étais sur le plateau pendant 4 jours. Tu sais, j'ai pas le recul nécessairement que j'aurais, mais il faut dire que j'étais pas dans un rôle du tout créatif. Fait que je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui écoutaient pas à cette époque-là. En 2021, en février 2021, j'ai travaillé sur la production de ce film-là en tant que EPK Team, c'est mon nom. Mon nom est premièrement mal écrit dans le générique, on m'a rebaptisé Axel Rose.
Ah, ça là!
Fait que puis ça dit que je suis EPKT, mais dans le fond, ce que je faisais, c'est que j'ai avec des gens qui s'occupaient de la publicité, puis un vidéaste, j'enregistrais des entrevues pour mettre dans les matériaux promotionnels du film, qui ont clairement pas servi beaucoup, parce que le film est sorti un peu sans grande pompe. Mm-hmm. Mais donc, ce que ma job demandait, c'était très simple. J'étais assis là et j'attendais que quelqu'un aille du lousse dans sa journée de tournage pour que puisse venir me parler pendant à peu près 15 minutes. Ça a pris 4 jours. Je n'ai jamais réussi à parler au réalisateur. Fait que là, pour le contexte un peu, Damien Sifron est un réalisateur argentin qui est surtout connu parce qu'il a réalisé, de notre bord, pas de l'océan parce qu'on est du même bord, mais en Amérique du Nord, c'est Wild Tales qui l'a fait connaître. C'est un film de 2015 qui est un genre de 4 courtes histoires fofolles, criminelles un peu, qui a gagné l'Oscar, ou certainement a été nominé pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère cette année-là. Ça a été quand même un pas pire hit pour un film international. Puis en Argentine, il a réalisé un show qui s'appelle, je pense, Los Simuladores, un enfant d'en même, qui semble être comme le 19-2 de l'Argentine. Fait que ça le positionne dans un genre de rôle pods-esque, où il fait toujours des films policiers. Il a fait 3 films. Il a fait 4 films en tout, dont incluant To Catch a Killer, mais les autres sont Wild Tales, Tiempo de Valientes, ou On Probation, et At the Bottom of the Sea. Puis, honnêtement, Tiempo de Valientes, c'est vraiment, vraiment bon. C'est un peu comme The Nice Guys de Shane Black. T'sais, ça a l'air un peu. Ça, c'est un peu plus comique que son travail. Mais en fait, il y a toujours de l'humour, sauf dans To Catch a Killer, qui est un film très dark à propos d'une policière, Eleanor Falco, de Baltimore, qui est toujours une beat cop, là, qui est une patrouilleuse, qui se ramasse en mêlée à une enquête parce qu'il y a eu une tuerie, une fusillade au jour de l'an pendant les feux d'artifice. 23 personnes ont été tuées par un sniper. Fait que la première séquence du film, qui est très bien faite, c'est tout du monde qui font party dans des gratte-ciels, dans des condos, puis qui se font tirer par des snipers. Fait que là, la ville est sous le choc, tout le monde capote, et ils n'ont pas trouvé le tireur. Fait qu'il amène le détective en charge de ça, qui s'appelle Lamarck, qui est joué par Ben Mendelsohn.
Ton ami.
Mon grand ami, qui m'appelle papa. Lui va chercher Eleanor Falco. même si elle n'est pas qualifiée pour ça, parce qu'elle semble avoir un vécu très difficile qui lui donne, qui lui permet peut-être de comprendre, dans le fond, qu'est-ce que le tueur pourrait être en train de penser. C'est assez traditionnel dans sa structure, dans le sens que, tu sais, c'est comme, bon, il y a une fausse piste, il y a un ci, il y a ça, tu sais. C'est comme un épisode de Law and Order, là. Mm-hmm. On voit beaucoup, mettons, de la perception de l'Amérique par un Argentin, mettons, qui est peut-être un peu difforme ou pas nécessairement à, vraiment à l'image de ce que c'est vraiment, mais plutôt de, t'sais, de l'image probablement reçue à travers tout ce que... T'sais, on sait pas toutes les... Nous autres, on voit beaucoup, beaucoup de nouvelles américaines, par exemple. Je sais pas en Argentine s'ils en voient autant. Qu'est-ce qu'ils voient, de quoi ça a de l'air, tout ça. Fait que, t'sais, ça parle beaucoup de... T'sais, la rage des hommes blancs, des incels, puis des traumas. T'sais, le fait que les traumas peuvent t'aider à faire quelque chose. T'sais, avoir le même trauma peut faire d'une personne un excellent policier, par exemple, mais d'une autre personne un tueur. Ces genres de trucs-là, c'est... Quand j'ai lu le scénario, je trouvais que le troisième acte était un petit peu faible. La résolution était pas à la hauteur de... des deux premiers actes. Puis je te dirais que le film final ressemble aussi à ça. Sans que ce soit une mauvaise fin ou c'est juste un peu comme ça s'en va ou ce que ça s'en va. Et c'est vraiment pas vraiment original comme film. Je dirais, tu sais. Des archétypes qu'on a déjà vus, des personnages qu'on a déjà vus, c'est subtilement écrit pour ce que c'est. Mais les grandes lignes sont vraiment familières. Mm-hmm. Les deux choses que j'ai aimé le plus en fond, c'est la direction photo, qui est vraiment soignée, qui est vraiment excellente. Puis que ça, je m'en doutais aussi quand j'étais sur le plateau, vu que c'était tellement calissement long de faire un setup de un plan, tu sais. Je me disais, ah ben c'est sûr que ça aura pas l'air d'un film de Bruce Willis, tu sais. Puis la deuxième affaire, c'est qu'il y a beaucoup de détails. Puis ça, c'est une affaire que je pense qui s'applique aussi à ces autres films. Ils sont très détaillés dans leur écriture. Tu sais, il y a une scène où ce que... il cherche un chandail avec du DNA dessus qui a été jeté dans une poubelle, puis là, qui est rendu à la dompe. Puis là, le film prend le temps de nous montrer les policiers qui fouillent à travers les poubelles à la dompe pour trouver le chandail. T'sais. Tandis qu'il y a un film moins...
C'est comme, on l'a trouvé, yes!
Ouais, c'est ça, quelqu'un d'autre. T'sais, envoie ce cave-là de figurant aller chercher le chandail, puis là, il revient, puis là, tu sais. Fait qu'il y a cette notion-là qui est bien. T'sais, les acteurs sont bons, mais sans... Encore là, c'est pas des grands, des rôles super profondément écrits à ce niveau-là. Là, puis il y en avait plus dans le scénario, évidemment, qui a été probablement coupé au montage, j'imagine. Pour tout vous dire, puis je sais pas si les gens qui m'ont engagé ou la Scandale Production ou whatever vont écouter ça. Pour tout vous dire, c'était assez chaotique comme expérience sur le plateau et je ne pensais pas que le film allait être bon du tout. Fait que quand c'est sorti un peu sans grande pompe, ça m'a pas vraiment surpris. Parce que je me disais, ben, ça avait pas l'air d'une production qui coulait de soi.
OK, ouais.
Ça avait l'air rough. C'était dur de parler au réalisateur. Le réalisateur, il répondait pas à mes emails. T'sais, il est retourné en Argentine sans qu'on puisse faire d'entrevue, tout ça. Ça semblait beaucoup. Puis c'est quelque chose, je pense, qui arrive souvent quand un réalisateur étranger, pour ainsi dire, fait son premier film américain. C'est rare que ces films-là sont des gros succès interplanétaires. C'est souvent un peu, tu sais... Indie plus comme ça, puis tu sais, ça. Parce que je pense que c'est une manière de travailler différente. Il y a, évidemment, il y a une barrière de langage, tu sais. Je sais que Damien Cifron avait amené son réalisateur photo à lui, son ami de l'Argentine, mais tout le reste du crew était montréalais. Fait que tu sais, il n'y a pas. Ça se passait beaucoup entre les deux, tu sais, entre le réalisateur et le directeur photo. Il y avait pas beaucoup de. Je voyais pas beaucoup de communication à l'extérieur de ça. Mm-hmm. Après ça. Là, moi, je dis ça, j'ai eu un point de vue très limité sur ce qui s'est passé, là. Mais j'ai trouvé que le film était une agréable surprise pour ça, parce que moi, je pensais que ça allait être... Puis ça a été sorti un peu, justement, comme un film de Bruce Willis ou de Frank Grillo, là, tu sais, avec le titre, quand il tournait, ça s'appelait Misanthrope. Puis là, maintenant, ça s'appelle To Catch a Killer, qui est le titre le plus générique et plate du monde, avec un poster vraiment générique de la grosse face de Shailene Woodley. C'est Shailene Woodley qui joue Eleanor Falco. Je l'ai pas dit encore.
Charlene, qui est aussi la vedette du jeu Charlene Woodley. Charlene Woodley 2.
Exact. Puis, fait que tu sais, c'est comme probablement pas un film que j'aurais regardé si j'avais pas travaillé dessus. Mm-hmm. Mais quand même meilleur que ce que ça peut laisser paraître, toute la l'anti-sortie, dans le fond. T'sais. C'est sorti à Montréal, mais je pense à jouer au Forum 2 semaines.
Mm-hmm.
C'est un peu un film qui est tombé dans l'oubli assez rapidement, qui vient juste sortir et il est dans l'oubli déjà, mais je dirais que ça vaut quand même la peine si vous aimez ce genre de truc criminel d'enquête-là. C'est quand même une bonne version de cette affaire-là sans nécessairement être super original.
On dirait une affaire qui va tout de même se retrouver dans le top 5 de Netflix.
C'est clair,
sortir, ouais,
ouais. C'est comme c'est du Hobbit, là, tu sais, quand en 2021, j'ai regardé des films de Gregory Hobbit, qui est comme l'ultime tâcheron de thriller policier.
On a fait son Primal Fear, à l'émission.
C'est plus intéressant visuellement, puis un peu plus crunchy que du Hobbit, mais tu sais, à la base, ça l'a quand même, c'est ça. Cette affaire de personne est allé voir au cinéma, mais ça fait 3 semaines qu'il est numéro 1 sur Netflix.
Mm-hmm.
Fait que je pense que c'est dans ces eaux-là. Puis tu sais, je dirais pas que mon expérience à travailler là-dessus était incroyable. En même temps, j'ai vraiment apprécié apprendre. Mais tu sais, c'était aussi pendant la pandémie, là. Mm-hmm. C'était top COVID, c'était pendant le couvre-feu.
Mm-hmm.
Fait que je prenais un Uber pour aller genre à Dorval, proche de l'aéroport pour le plateau. Puis je voyais pas un autre char. Fait que c'était très bizarre comme situation. Je pense que c'est pas non plus idéal pour faire un film. Ça crée pas nécessairement des liens entre les gens qui travaillent sur un film.
Non.
Quand il faut que tu te fasses sprayer avec du bleach à toutes les 2 heures ou je sais pas trop. T'sais. Toutes ces choses-là jouaient contre le film. Puis le film est quand même assez réussi, là, somme toute, là, à ce niveau-là.
Eh bien, moi, je vais te parler d'un film qui va sortir ce week-end que je suis allé voir. J'ai tant visionné la presse pour le voir. J'ai vu About My Father, réalisé par Laura Terusso, qui met en vedette Sébastien Maniscalco, Robert De Niro, Leslie Bibb et Kim Cattrall. Ce qui se passe, c'est que c'est un genre de film qui est comme une genre de adaptation at large. Du matériel et de la personnalité stand-up de Sébastien Maniscalco, qui est tout de même comme un des gros stand-up aux États-Unis. T'sais, il remplit des arénas, un des gros qui est tout le temps tourné.
Puis il n'y a jamais eu de véhicule. Il n'y a pas jamais eu un sitcom ou un. Il joue dans quelques films, il joue dans The Irishman, par exemple.
Écoute, il joue Foreman Spike dans Super Mario Bros. The Movie.
Bon, c'est ça. Mais il n'y a pas comme. Je sais pas comment dire. J'entends beaucoup les humoristes québécois parler de lui, mettons.
Mm-hmm.
Mais peut-être que l'équivalent... Mettons, Jim Gaffigan, il y a 10 ans, était comme ça aussi. Tu sais, comme il était pas dans des films, il était pas dans rien, il avait pas eu de show. Peut-être plus 15 ans, mais tu sais, il était super huge. Là.
Ouais.
Puis mais il avait pas eu de sitcom, il avait pas eu de film. Là, c'est
assez en tournée que c'est
exact.
Pas nécessairement le goût d'aller comme faire un sitcom, faire un
c'est
film.
Ça.
Fait que dans About My Father, on suit Sébastien qui lui-même, qui doit passer le week-end du 4 juillet dans la famille super riche de sa fiancée, puis il compte la demander en mariage durant ce week-end-là. Mais cependant, pour ce faire, il faut qu'il amène son père Salvo, qui est un immigrant, un coiffeur aussi, afin de rencontrer sa belle-famille, sa future belle-famille, puis aïe aïe aïe, je te dis qu'il y a un conflit de personnalité dans tout ça.
Bien sûr.
Puis... je te dirais que ça, je trouve que c'est un film que je... Tu sais, c'est comme un 2 étoiles comme inoffensif, bien plaisant. Parce que l'affaire avec ça, c'est que c'est ça, c'est l'aspect, c'est que c'est véritablement un véhicule pour Maniscalco puis son genre de stand-up. On a parlé un peu, mais tu sais, des années 90, dans la télévision américaine, tu sais, un peu ici aussi au Québec,
ouais.
Il y avait des sitcoms qui étaient frontés par des humoristes et.
Ben, kilomètre-heure, mettons, ou 450 au chemin du golf.
Chemin du golf, ouais. Mais tu sais, aux États-Unis, il y en avait encore plus, qui étaient des sitcoms basés un peu sur la personnalité comique ou le matériel d'un stand-up.
Ouais, ouais, ben, tu sais, comme Tim Allen, mettons.
Avec Home Improvement.
Home Improvement, tout ce que, tu sais. Ça extrapolait beaucoup sur, tu sais, Tim Allen faisait 5 minutes dans son show sur « J'aime les outils ». What if il animait une émission d'outils, tu sais, puis là,
exactement.
On extrapole là-dedans, fait que ça reste vraiment collé à la personnalité du personnage.
Exactement, fait que, puis justement, c'est un 2 étoiles, mais mettons que t'aimes Maniscalco, tu vas y aller, tu vas comme, oh, ceci est 3 étoiles et demie, peut-être même 4, parce que c'est entièrement sa personnalité, son stand-up. C'est un film qui est entièrement tuyauté de voix hors champ de lui qui te raconte un peu de l'histoire de sa famille, mais qui met plein de ses liners qui, j'imagine, sont sortis directement de ses numéros, puis qui raconte l'histoire de son père, puis de sa vie avec tout ça, puis qui patche des bouts de narratif, toutes ces affaires-là. Fait que, tu sais, si tu l'aimes, lui, je pense que, tu sais, t'es déjà comme, oh yes, let's go, c'est comme voir un genre de special Wikipédia dramatisé. Si, mettons, t'es pas tant familier avec lui, moi, comme je savais un peu c'était qui, puis les numéros que j'avais entendus de lui, je comprends pourquoi ça pogne grand public, mais c'est pas vraiment mon affaire. Il y a un peu une énergie comme, je sais pas il y a quel âge, mais il agit. Il raconte vraiment des jokes comme s'il avait grandi dans les années 50.
Ok, ouais.
C'est comme, hey, dans mon temps, puis blablabla, puis je te dis, puis tu sais, je comprends que c'est ça. Peut-être qu'il veut comme. On dirait qu'il veut. Puis ça, c'est dans le film qu'ultimement, il adore son père. Peut-être qu'on dirait qu'il veut être comme son père puis avoir la posture comique de son père.
Ouais.
Bref, lui, comme acteur, il est pas exactement bon. Il est maladroit. Puis justement, avec les voice-overs et tout ça, cette maladresse-là se répand à travers le film.
Ouais.
Cela dit, fait que c'est... Puis toutes les jokes, ben, c'est des jokes de stand-up vraiment large. Hey, moi, je suis italien, mon père aussi, mon père était cheap. Pis...
Ça commence-tu comme... Moi, je l'imagine, là, les premières shots, là, il est dans son char. Là. Puis là, il s'en va visiter son père. Puis là, il fait... I'm Sal. I'm the kind of guy that bada 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 bada. And this is my dad. Là, ça fait... Pum! With my father. Puis là... Hey, you fucking bad, 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 bad dude.
C'est un peu ça, sauf qu'il...
C'est comme... Je le vois dans ma tête déjà, tout comment c'est fait, là.
Ouais, ben, tu vois, c'est
This guy, he's my uncle Vinny.
C'est, ouais, exactement. C'est de même tout le long, c'est de même qu'il rencontre sa blonde, il raconte comment il a rencontré sa blonde, son père, toutes ces affaires-là. Mais il parle pas de comment il a rencontré son père, il parle comment c'était...
comment il a rencontré son père.
Ouais.
On a tous un peu la même histoire, ben, si tout va bien, là, dans le meilleur des mondes, on a tous un peu la même histoire de comment on a rencontré notre père.
Fait que ça, c'est très facile et convenu, toutes des jokes comme ça. Mais encore là, si t'aimes Maniscalco, ça va marcher. Puis moi, qui est tout le temps comme « let's go, comédie de studio », je suis comme « yes », j'essaie de me laisser gagner par ça. C'est juste correct. Mais cependant, son père, comme je l'ai dit, est incarné par Robert De Niro.
Mm-hmm.
Fait que... Robert De Niro, on dirait qu'il est comme un genre de golem animé par les jokes stéréotypés de vieux monsieur italien tough. Puis, m'a pas de surprendre en disant qu'il fait ça les doigts dans le nez,
mm-hmm.
Puis il est super fucking bon et fréquemment touchant. Puis, il est juste, à cause de son âge et de son vécu, des mimiques de bonhomme que tu vas reconnaître ton père, j'ai reconnu mon père. Fait que t'as juste comme ou ton grand-père peut-être selon l'âge de nos auditeurs ou nos auditrices,
mm-hmm.
Que quand tu vas regarder le film, tu vas avoir comme un genre de réservoir comme de sentiments positifs face à lui à cause de ça. T'sais.
Ouais. Ben tu sais, De Niro faisait pas vraiment de comédie avant Meet the Parents. Meet the Parents qui jouait absolument juste sur le fait qu'on voyait jamais Robert De Niro dans des comédies avant. Là, mm-hmm. Puis là, après ça, il en a fait plein. Puis presque tout le temps, c'était l'affaire la plus lazy de tous les temps. Je pense qu'il a longtemps pas été bon. Puis quelque part autour de Dirty Grandpa, il a compris que t'sais, comme il peut avoir du fun à faire des comédies et non pas juste à être t'sais, comme un genre de straight man un peu. Là, t'sais, comme... C'est pas juste sa face stricte qui fait que les jokes revolent un peu partout. Là. J'admire la nouvelle posture comique de Robert De Niro depuis comme 2016. Puisqu'il est juste comme... Maintenant, il trouve ça... T'sais. C'est Trump, en fait, peut-être, qui a fait ça. Parce que tu sais, avant, quand De Niro il allait faire des talk shows,
mm-hmm.
Il était quasiment endormi. Là,
ouais. T'sais.
Là, maintenant, il va dans des talk shows, puis là, il devient super fired up de comment il déteste Trump.
Ouais, ça l'a allumé pas mal. Puis tu sais, aussi, une affaire qui est aussi dans l'écriture, que je pense que ça, peut-être ça vient du vrai père de Maniscalco puis de Robert De Niro, c'est que, tu sais, son père est coiffeur. Puis, les blagues qui sont faites de ça, c'est pas des blagues de « cet homme tough-là est coiffeur ». C'est ouais. Comment qu'il aime réellement ça, puis quand il rencontre la nouvelle belle-mère de Sébastien, il est comme « oh ». J'aimerais tellement ça, mettre mes mains dans vos cheveux, madame, là. Puis, tu sais, ouais. D'ailleurs, qui est joué par Kim Cattrall, qui est aussi très, très bonne, que moi, j'aime, j'ai découvert de par Sex and the City, et qui refuse d'être dans la série prequel à cause d'un mystérieux fallout avec Sarah Jessica Parker. On ne saura jamais vraiment pourquoi. Son personnage apparaît juste en fenêtre de chat dans And Just Like That. Moi, je pense qu'elle va jamais retourner, mais je trouve que c'est une comédienne écœurante. Puis j'espère qu'on va l'avoir dans plus d'affaires s'il y a plus de comédies qui s'en viennent. Mais c'est ça. Tu sais, comme. Je peux pas dire comme oh man, tellement bon. Mais Let's Go Community Studio. 2 étoiles, comme tout de même, bien sympathique. Encore là, je pense que c'est une affaire qu'on vient dire comme. Si ça sort sur Netflix, je pense que ça serait comme
Un
affaire Sandler, un succès style Sandler qu'il y a sur Netflix. Je pense que ça va être bien big avec la crowd de.
Ouais, mais je suis curieux parce que tu sais, comme tu dis, il est huge aux États-Unis avec probablement le genre de monde qui vont pas vraiment au cinéma d'habitude.
Ouais.
Puis, tu sais, ça, des fois, on le voit, mettons, avec Tyler Perry, par exemple. Ça perd tout au box-office, puis tout le monde est genre, d'où c'est que ça vient, ça? Ou tu sais, même Jesus Revolution. T'sais.
Ouais.
Comme, sans dire que Maniscalco est religieux, c'est pas ça son affaire, mais tu sais, il y a comme une niche.
Mais il y a aussi, c'est vraiment comme, hey, mon père est italien, on est italien, fait qu'il y a aussi toute cette affaire-là, italo-américaine, pas qui vont pas au cinéma, mais là, je pense que je peux imaginer du monde plus jeune qui amène justement le reste de leur famille.
Ouais, ouais, ouais. John Gabris, genre.
Exactement, ouais.
Fait que tu sais. Je pense que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va peut-être être un hit.
Ouais, ça va peut-être être un hit. Puis s'il y a un 2, puis Gabriel c'est pas dedans, qu'est-ce que ça prend, Motadine?
Je veux parler de. Moi, j'ai continué un peu mon périple de Paul Verhoeven.
Oui.
J'ai regardé Spetters, son film de 1980, qui est un film qui met en vedette Hans van Tongeren, Toon Hagterberg. Et Martin Spanger dans le rôle de 3 amis jeunes adultes. Je pense qu'ils sont plus à l'école, ils ont peut-être 19 ans. Genre. Puis tout ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils aiment faire de la motocross, du dirt bike, des courses de dirt bike. Et ils veulent à tout prix renverser leur héros, le meilleur joueur de motocross, le meilleur chauffeur de motocross de la Hollande, Gerrit Wittkamp, joué par Rutger Hauer.
Bien sûr!
Ce qui se passe, essentiellement, c'est très tranche de vie. Il n'y a pas un gros plot. Là. C'est même pas comme un film inspirationnel de sport tant que ça. C'est vraiment leur vie, qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Puis, ce qui arrive, c'est qu'il y a une... en Hollande, tu manges un truc qui s'appelle un croquette, qui est un genre de... Si j'ai bien compris, comme un genre de pogo, mais avec pas de bâton. Fait que c'est comme un pâté, comme un pâté jamaïcain, genre, mais okay, c'est rond comme une saucisse, genre.
OK.
Puis, René Soutenjic, qui joue Finchi, qui, elle et son frère, ont le genre de troc de croquettes qui est dans le ring de motocross, tu sais. Fait qu'elle se lie d'amitié et éventuellement, pas d'amour, mais de sexualité avec chacun des gars, un à la fois, et elle leur... T'sais, à cause d'elle, ils vivent des affaires séparées, puis des affaires qui vont changer la trame narrative de leur vie. Là. Fait que le personnage principal, là, qui est Rien, qui est joué par Hans van Tongeren, lui, il a un accident. Il devient quadraplégique. Puis, évidemment, c'est plutôt difficile pour lui. Non, paraplégique, pardon. Puis, tu sais, là, il faut qu'il deal avec ça. Il peut plus, il est en chaise roulante, tout ça, puis il peut plus faire de moto, par exemple. Là, il y en a un autre. Qui, je crois que c'est Hans qui est lui, est dans le placard. T'sais, il réalise pas qu'il est gay. Puis aussi, dans le monde très macho dans lequel il existe,
ouais.
C'est pas vraiment accepté. Il y a une scène au début, quand même, que j'ai trouvé quand même intéressante, c'est que c'est deux des gars amènent des filles dans un genre de building délabré pour faire des cochonneries, genre. Puis il y en a un, ben, il est gay, fait que ça l'intéresse pas. Puis l'autre, la fille, elle découvre qu'elle est menstruée. Fait que les deux font semblant. Tu sais, ils disent, OK, ben là, on va avoir l'air vraiment loser s'ils nous entendent pas faire le sexe. Mm-hmm. Fait que les deux, c'est comme, pas en split, c'est splitté dans l'écran, là, par leur mur, là. Là, tu les vois chacun de leur bord faire semblant qu'ils sont en train de faire du sexe, tu sais, à jouer avec les attentes. C'est beaucoup un film sur ce qui est attendu de toi quand t'es une jeune personne. Mm-hmm. Tu sais, ce qui est attendu de toi par les adultes, par la société, par les autres. Tu sais, leurs parents ont tout, veulent pas vraiment qu'ils fassent de la moto, mais il y en a un qui, son père, voudrait qu'il soit vraiment bon. Mm-hmm. Il est toujours déçu qu'il est pas bon, même si, ultimement, c'est pas vraiment un choix de carrière possible. Fait que, tu sais, c'est du Paul Verhoeven. C'est extrêmement trash. Évidemment, il y a des agressions sexuelles dans un film de Paul Verhoeven. Dans celui-là, c'est comme des hommes. Il y a juste des... En fait, toute la sexualité tourne autour des hommes. T'sais, il n'y a pas d'humiliation sexuelle de femmes ou de femmes de même. Mm-hmm. C'est vraiment tout... Il y a un concours de mesurage de graines. Il y a des affaires... Il y a une pipe. Genre, ça, j'avais jamais vu ça, je pense, dans un film juste normal. Un gars qui suce un autre gars, genre, puis tu le vois comme tout. Là. Mm-hmm. Fait que tu sais, c'est pour public averti, je dirais. Ça peut être assez... déplaisant, tu sais, c'est pas tourné par Yann DeBond, celui-là, c'est un autre directeur photo, fait que, mais ça a quand même, tu sais, cette texture vraiment, comme j'avais parlé quand j'avais parlé de Turkish Delight, tu sais, que texture sale de bave, de tour de bras, tu sais, tout est boiteux, tout est sale, y a rien qui est glamorous, tout le monde a l'air d'avoir les pieds mouillés tout le temps, tu sais, c'est très comme puis c'est très, 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 très caustique et je dirais même peut-être nihiliste sur l'idée de faire quelque chose de ta vie. Tu sais, je pense que le point de vue un peu de Verhoeven, c'est... Tu peux faire quelque chose de ta vie, tu peux rien faire. Ultimement, ça change absolument fucking rien dans le système dans lequel on vit.
Ouais, ouais, ouais.
Ce que tu fais, ça va jamais te rendre heureux puis c'est pas toi qui décide. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est glauque.
Je veux dire, ben, mais Benedetta aussi, c'est de même, là.
Ouais, c'est ça.
C'est là, jusqu'à... L'ultime victoire à la fin de Robocop, c'est que Robocop a enlevé son casque puis dit « Appelle-moi Murphy ». Mm-hmm. C'est comme la seule victoire...
Il est redevenu ce qu'il était au début, il mais pas comme... vraiment, tu sais.
Mais il était encore comme... Essentiellement un torse, puis un bras, puis une tête pognée... Dans du métal, puis sa seule victoire peut être genre, hey, j'ai un nom finalement.
Ben tu sais, puis il y a du proto Robocop dans ça, justement, avec le gars en chaise roulante, tu sais, qui devient, qui est plus capable de faire la chose qu'il veut faire et qui se sent comme, tu sais, à quoi ça sert d'être vivant si je ne vivais que pour ça, dans le fond. Mm-hmm. Puis c'est vraiment. Tu sais, c'est drôle aussi. C'est ça l'affaire avec Paul Verhoeven. Des fois, t'es comme, asti, que je vais me pendre. Ce film-là est vraiment, vraiment déprimant. Puis là, ça devient drôle, tu sais. Puis il joue beaucoup avec, tu sais, comme la réponse humaine à ce genre d'affaires-là. Tu sais, qu'on n'est pas... C'est difficile, mettons, je pense, en tant que public, de passer d'une émotion à l'autre comme ça. Mais Verhoeven, il sait qu'on est capable. Fait que... Tu sais, comme d'habitude, il passe pas vraiment de jugement tant que ça. Puis là, il dit là, arrange-toi avec ça maintenant. Ouais. Ben, je te le montre, il est là, arrange-toi avec.
Ben, faut. Tu sais, fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Moi, j'en parlais souvent quand on parlait de Robocop à trois bières dans le temps. C'est que, tu sais, Verhoeven a vécu dans l'occupation nazie.
Ouais, ouais, ouais.
Puis, à un moment donné, des soldats nazis, pour le fun, quand ils étaient très jeunes, ils l'ont pogné, puis ils l'ont mis comme. Armor, puis comme, hey, là, à cette heure, nous, on va te fusiller. Puis là, lui a attendu de se faire fusiller, il s'est pissé dessus. Puis en fait, comme, ha ha ha, c'est une joke.
Ouais.
Puis ils l'ont laissé aller. Puis ça, je pense que quand tu sais cette anecdote-là, ouais. Tu comprends entièrement tout ce qu'il y a dans ces films, tous les tons, la dégueulasserie, ouais, la violence, ouais. L'exaltation de continuer à exister, puis toutes ces affaires-là.
Puis tu sais, puis dans Spatters aussi, il fait beaucoup comme de. Les personnages ont des comportements à proscrire, mettons des comportements pas le fun. Mais là, on doit continuer à les suivre après. Le film te dit jamais, regarde, ce qu'il a fait, c'était pas correct. Mm-hmm. Ce qu'il a fait, c'était correct. Mais qu'il l'ait fait ou non, ou ce que t'aimes ça ou non, ce qu'il a fait, lui, il est encore vivant, il existe encore, il continue à exister. Fait que, tu sais, tu peux juger absolument, ça reste à toi. T'sais. Moi, je le juge en tant que Paul Verhoeven, mais c'est toi qui décides.
Ouais.
Ça veut pas dire. C'est pas parce que quelqu'un a fait de quoi de mal que je vais t'enlever. Tu sais, dans la vie, là, quelqu'un qui fait quelque chose de mal, il reste là, genre, tu sais. Fait que. Je pense qu'on peut prendre. C'est à prendre ou à laisser pour certaines personnes. Je peux aussi comprendre que le early Verhoeven peut dégoûter certaines personnes. Ouais. Tu sais, c'est pas. C'est beaucoup d'affaires. Mm. C'est très, très dense d'idées puis de réactions, des fois contradictives. Le film se contredit souvent aussi dans ce qu'il veut nous faire sentir. Puis ça, c'est complètement voulu. Il y a quelque chose, c'est ça. Je dirais jamais que c'est comme des trois points du vieux Roman parce que c'est tellement pas fait pour ça, tu sais. Il joue même pas au baseball, au basketball, là, lui. Là, il essaie pas de faire des trois points, il joue même pas. Il est en dessous. T'es en train de torturer des grenouilles en dessous des bleachers. Là, ouais. Comme ça a plus vraiment rapport.
Alors que la foule applaudit la game de basketball, lui, il y a une allumette puis il la met proche de la grenouille. Puis il est comme.
Il dit oh. À la grenouille, c'est toi qui décides. Fait que c'est ça. Tu sais, non, je pense pas que. Je veux juste dire, je pense pas que Paul Verhoeven torture des animaux pour vrai.
Non, 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 non.
Mais c'était figuratif. Mais. Pas évident à trouver, je pense que ça se loue sur iTunes, mais vraiment recommandé. J'ai sauté Soldier of Orange parce que j'avais pas de source pour le regarder, mais j'ai trouvé un DVD. Là, je suis en train de déménager, puis là, j'ai trouvé un DVD de Soldier of Orange. Là, j'ai fait bon, avoir su, j'aurais regardé ça avant, mais là, il me manque Soldier of Orange, puis The Fourth Man, puis après ça, j'ai fait toute la partie le Early Verhoeven.
C'est excellent ça. Ben, tu viens de parler de Verhoeven, on va parler d'un autre artiste. Je vais parler bien sûr de Rob Marshall et de sa nouvelle vue qui est passée à l'affiche ce vendredi. Je parle bien sûr de Little Mermaid.
Ah, hey, je savais pas de quoi tu parlais. J'étais genre Rob Marshall. Qu'est-ce qu'il a fait?
Ben, Rob Marshall, Is All It Again. Je crois qu'il est en train de faire aussi. Le nouveau Blanche-Neige avec Rachel Zegler.
Ah oui, oui, oui.
Mais là, il a fait The Little Mermaid qui met en vedette Halle Bailey, Jonah Howard King, Melissa McCarthy, Awkwafina, David Diggs et Javier Bardem.
Jacob Tremblay aussi qui fait Flounder.
Qui fait aussi, oui, Jacob Tremblay qui joue le jeune barboteur en français. Puis c'est bien sûr un remake en live action du classique de Disney, où Ariel, une sirène qui est curieuse de découvrir le monde de la surface, s'éprend du prince Eric en lui sauvant la vie. Son père, Triton, le roi des mers, lui interdit de poursuivre cet amour, mais Ariel fait un marché avec la sorcière Ursula. Elle pourra visiter la surface pendant 3 jours et y rester si le prince l'embrasse d'un amour sincère, mais cependant, elle n'aura pas accès à sa voix, à y parler, à son chant de sirène. Ariel accepte, mais ignorant que le marché est truqué et qu'elle va oublier cet accord, puis qu'elle ne sait pas pourquoi qu'elle est muette, puis qu'elle doit tomber en amour avec. Alors, c'est ça. C'est une version 2h10, 2h20 même, je pense, d'un autre classique animé de Disney qui, originalement, doit durer genre 100 minutes. Ça, c'est comme... L'affaire, c'est que là, Disney, ça fait beaucoup de trucs qu'ils ont fait en live action, qu'ils adaptent leurs vieux dessins animés, mais ça, je trouve que c'est vraiment... C'est le plus casse-gueule de toute leur adaptation, parce que le paysage de la pop culture qu'on a aujourd'hui est pas pareil si La Petite Sirène sort pas, parce que La Petite Sirène a créé ce qui s'appelle... la renaissance de Disney, mm-hmm. qui leur a amené pendant comme un certain 12-15 ans, qu'ils ont remis au top du box-office en animation, puis en animation genre slash comédie musicale, qui a fait gonfler les visites des parcs, qui a ramené comme la notion du Disney Vault, de ressortir des films mm-hmm. en vidéo maison, qui a fait... qui est devenu un vecteur, mettons, pour que des jeunes s'intéressent à la comédie musicale. Fait que par conséquent, ce qui se passe à Broadway en ce moment, le foisonnement de Broadway en ce moment n'est pas le même si ouais. C'est pas La Petite Sirène.
Ben, je dirais même que les films de super-héros sont pas les mêmes parce que c'est cette domination-là qui a fait que Disney avait l'argent pour éventuellement acheter Marvel, puis acheter ci, puis acheter ça.
Exactement,
ça.
Parce que son Disney était devenu plus big que jamais, mais il était pas, il avait pas été capable de cerner ce qu'il appelle le marché des petits garçons, puis c'est pour ça qu'ils ont acheté Star Wars et Marvel. Fait que il y a beaucoup d'affaires qui arrivent pas si la petite sirène n'existe pas. Puis la petite sirène est justement aussi comme la version parfaite de cette formule-là, que c'est réadapter un conte classique de Hans Christian Andersen. C'est avoir comme des nouveaux compositeurs comme Howard Ashman et Alan Menken qui créent des nouvelles chansons qui sont devenues immédiatement iconiques. C'est aussi, encore là, c'est au début, ma foi, je ne me rappelle pas le nom de l'actrice, mais les acteurs originaux de La Petite Sirène, c'est pas des célébrités, c'est des voice actors chevronnés qui ont choisi puis qui ont fait une performance écœurante, qui écrit tout ça. Fait que, tu sais, c'est quelque chose de vraiment... C'est un monument dans le comme tout le Disney, puis juste à cause de ce monument-là, ça fait que le film, je pense, va avoir tout de même des grosses recettes, malgré tout. J'ai toujours pas vu le Aladdin de Guy Ritchie, mais j'imagine qu'il est pas très bon.
Je l'ai vu. Ce que je peux dire, c'est que je l'ai vu.
D'ailleurs, c'est weird de dire la phrase le Guy Ritchie, le Aladdin de Guy Ritchie.
Oui, effectivement.
Ça n'a pas de sens. Mais bref. Tu sais aussi, Lion King aussi est devenu vraiment big. Bref, qu'est-ce qu'il y en est de Little Mermaid?
Mais là, il y a du pushback Marshall. Quand même de Little Mermaid de Rob Marshall parce que c'est devenu woke.
C'est devenu woke parce que, bien sûr, la petite sirène est jouée par Hailey Bailey et elle n'est pas blanche.
Exact.
Et les gens sont choqués, mais ces gens-là sont des imbéciles parce
que Ursula est jouée par une madame grosse.
Une madame grosse. Mais en fait, je pense que, tu sais, je voyais du monde, c'est comme... Ursula est clairement divine tu sais, comme ça serait plus cool si c'était comme une femme trans qui jouerait, mais tu sais, Melissa McCarthy,
mais divine était plus une drag queen qu'une femme trans, mais quoi que on sait pas ce qui serait arrivé si elle était pas morte là, tu sais.
Ouais.
Fait que c'est un peu le on sait pas, mais puis tu sais, il y a du monde qui a dit ben ça devrait être Lizzo qui joue Ursula parce que Lizzo est noire comme l'actrice principale.
Ben, elle aurait pu, mais je pense que Melissa McCarthy est une actrice comique. Je sais pas si Lizzo est dramatique.
Ben, je sais pas si elle a déjà joué dans quelque chose.
Ben, elle était dans un épisode de Mandalorian saison. Puis quand on dirait qu'elle imitait Nicole Byers.
Ouais.
Elle était comme hey,
mais
gros goût, t'es là.
Ça aurait dû être Nicole Byers qui fait Ursula. Moi, ça serait ça mon pitch ultime.
Ouais.
Mais personne m'écoute. Ils veulent jamais mettre Nicole Byers dans quoi que ce soit à part des astidans. Show de concours de gâteau du calice.
Mettez Nicole Byers dans des films, sacrément. On y va. Mais, fait que bref, pour Alex, avec le film, c'est... Hailey Bailey est écœurante. Et comme j'ai parlé de...
Elle vient de où? Es-tu son premier film? Genre,
c'est un de ses premiers films, mais elle est chanteuse, je crois, surtout. Mais là, c'est une super bonne chanteuse, mais, tu sais, quand je l'ai vu à l'écran, j'ai vu la même affaire que j'ai mentionné tantôt. Rachel Zegler, je suis comme, OK, c'est la même genre de jeune fille qui semble sortir hors de nulle part et que la ceinture à outils est pleine pour être une méga vedette puis tout faire au cinéma. Tout comme Rachel Zegler, il vient d'avoir un trailer pour une version comédie musicale de Color Purple qui est sortie cette semaine.
Ouais.
Que c'est comme, ah, OK, tu sais, peut-être que... J'espère qu'elle va pouvoir faire fructifier ça mieux que la jeune Rachel. Mais elle est vraiment, vraiment bonne. Justement, elle incarne parfaitement ce que le cartoon de Ariel avec la performance de l'actrice qui la jouait incarnait. Il y a le même genre de aventurière, naïve, jeune, pure, amoureuse, toutes ces affaires-là.
Ouais, ouais, ouais.
Ça marche super bien. La plupart du film... le film est plus long, puis pour la plupart, je trouve que ça justifie sa longueur parce qu'ils ont décidé de donner plus de temps pour faire comme le prince Eric est cool, ça vaut la peine de tomber en amour avec lui.
Okay.
Et il y a beaucoup de. C'est plus long lorsqu'ils sont sur la terre ferme ensemble, puis qu'ils ont des shenanigans de comédie romantique ensemble, puis qu'ils sont dans une fête. Avec des marchands, puis qui se promènent sur l'eau, puis que c'est vraiment cute.
Ouais, il y avait ça dans Aladdin beaucoup aussi, là, se promener dans les marchands, puis tout. Là. Ouais.
Ben, tu sais, je pense que c'est. c'est une affaire qu'il faut que tu mises dessus. Si tu mets ces histoires en live action, il faut que tu essaies de montrer de la chimie entre des vrais acteurs. Ouais. C'est là que tu fais quelque chose qui ne fait pas. Fait que ça, c'est vraiment bien.
Qui joue le crabe?
David Diggs joue Sébastien, puis il m'a dit. Beaucoup de gens ont parlé des designs réalistes des créatures qu'on aime. Mm-hmm. Le problème avec Sébastien, c'est qu'il a de l'air délicieux. Il a de l'air que tu veux le noyer dans le beurre puis le manger. C'est ça le tu penses pas ça dans la version animée, mais la version live action, il a de l'air fucking bon. Barboteur de Jacob Tornier, il est comme pâle et couleur froide, fait que t'as pas le goût de faire du sushi avec. Mais Sébastien, par exemple, t'es comme miam miam miam, va mettre ma bavette, va le manger.
Ouais,
il est d'ailleurs bien rendu, il est sa bonne ligne de cartoon réaliste. Puis là, justement, là, c'est un des problèmes du film, ce que le monde parlait beaucoup, c'est que visuellement, c'est que la présentation visuelle du film est réellement, comme tu sais, c'est tout le temps dit, comme pourquoi que ces films-là en live action sont si sombres. C'est de l'animation jadis, mais ça, c'est. Sont vraiment sombres avec de la lumière terne puis des affaires comme ça. Mm-hmm. Puis c'est de même aussi tout le temps dans La Petite Sirène. Il y a une coupe. Quand Ariel est plus proche de la surface, là c'est plus lumineux. Je suis comme, ok, là c'est beau. Si le film avait l'air de. Ça serait cool. Mais aussi, c'est des sirènes. C'est pas comme Aquaman où, tu sais, dans Aquaman, ils nagent, mais à un moment donné, ils mettent les pieds sur terre puis là, ils se parlent dans des pièces sous-marines. Là, tout le monde flotte tout le temps. Et ça fait comme des compositions d'images bizarres. Ça a tout le temps l'air un peu stiff. Et quand c'est le temps d'avoir un numéro musical, tu peux pas vraiment avoir des chorégraphies écœurantes parce que personne n'a de pieds et de jambes. Ils font juste comme flotter puis se promener. Fait qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis même quand ils sont sur la terre ferme, les couleurs sont pas assez colorées. T'sais, ça a pas d'allure que Mamma Mia 2 est comme plus coloré qu'une adaptation live action de La Petite Sirène. Fait que ça, c'est comme tout le long, je suis comme, voyons, non, c'est pourquoi le soleil est plus bleu, le ciel est plus bleu dans Mamma Mia et We Go Again que dans ce film-là, là, ça n'a pas de sens. Ouais. Aussi, Javier Bardem, il est comme surprenamment stiff et souvent comme pas bon. On dirait que c'est peut-être la première fois qu'il est comme dans un monde de green screen, puis il est comme
il a fait le méchant dans le dernier Pirates of the Caribbean. Il était
tout
en CGI
avec Rob Marshall aussi. Ouais. Mais bref, il est comme étrangement stiff là-dessus. Sinon, Melissa McCarthy, super bonne. Elle est vraiment dedans, elle est vraiment dans le pocket. Encore là, tu sais, si dans ces scènes justement, tu sais, je comprends, qu'il est dans une caverne sous-marine, mais s'il y avait plus de couleurs, on la verrait plus. Puis ça serait cool. Mm-hmm. Elle est vraiment bonne. Mais sinon, c'est ça. Je suis comme. Je suis comme à un 2 étoiles et demi, comme de très bonne volonté. Mais je pense que, tu sais, si t'aimes La Petite Sirène, si c'est un film qui est important pour toi, pour le monde qui nous écoute, je pense qu'il y a des affaires que vous allez aimer. Vous allez voir comme, oh, ceci était une bonne version, le fun, une affaire que j'aimais déjà. C'est dommage que le film autour n'est pas aussi bon. Mm-hmm. C'est la même affaire que des fois, moi, quand je vois un film de Superman qui est pas bon, mais là, il y a une scène où il se transforme en Superman qui est vraiment bien faite. Je suis comme, oh, ça, c'est cool. C'est la seule affaire que je vais me souvenir. Aussi, il y a des nouvelles chansons qui sont bien, qui sont coécrites par Lin-Manuel Miranda, dont un rap par la mouette qui est jouée par Awkwafina. Et les gens qui détestent Lin-Manuel Miranda vont absolument détester ça. Mais c'est pas plus niaiseux que le cuisinier Wario-esque qui essayait de tuer Sébastien dans le dessin animé original.
Ouais,
alors, c'est autant de son époque que ça. Mais bref, c'est ça. C'est souvent aussi, je pensais, ben, à cause des chorégraphies, je pensais à West Side Story puis à Rachel Ziegler. Je suis comme, ah, ok, tu sais. Faudrait ces chorégraphies-là pour faire shiner ces tunes-là pour de vrai. Puis peut-être que ces tunes-là puis les chorégraphies peuvent juste vraiment shiner en animation versus en live action. Fait qu'on revient au point de départ de pourquoi vous faites ces films-là en live action. Ça n'est pas nécessaire. Mais bon, si vous aimez La Petite Sirène, je pense que vous allez aimer ça. Mais c'est pas un panorama visuel aussi écœurant que je vous dirais pas d'attendre à Disney Plus non plus.
Ouais. Ben, parlant de panorama visuel écœurant, on va parler de notre film québécois de la semaine.
Absolument, man.
Initialement, on voulait écouter « Il n'y en aura pas de facile » de Marc-André Lavoie. Puis Prime nous l'a enlevé de sous la dent. Mm-hmm. Donc, on a dû se rabattre sur Innocent de Marc-André Lavoie.
Ouais, ouais.
Un film...
Dans la vallée de Lavoie, on est
notoire
là.
Pour moi, qui est un film de 2017, le dernier, quatrième et dernier film de Marc-André Lavoie jusqu'à maintenant, qui est notoire pour moi parce que je me souviens que ça a joué au FNC, à la grande surprise de tout le monde. Et c'était ce genre de truc. Tu sais, des fois, ça arrive, là, un film va jouer à un festival, mettons Fantasia ou le FNC, puis sortir tout de suite après. Fait que, tu sais... essentiellement, ce que le FNC fait, c'est le preview screening était au FNC, puis après ça, il sort au cinéma. Tu sais, Guardians 1 avait fait ça à Fantasia, il me semble. Puis, ce que je me souviens, c'est qu'Innocent est sorti tout de suite après le FNC. Quand c'était au FNC, tout le monde était comme, c'est quoi ça, tabarnak? C'est sorti et ça n'a pas fait une semaine complète au cinéma avant d'être. Puis là, tu sais, j'ai pas pu aller dans le vieux journal pour trouver ça parce que c'est arrivé dans le temps de l'Internet. Fait que j'essayais de trouver des mentions de ça parce que je me souviens un peu de la tempête dans un verre d'eau que ça avait fait, mais j'ai pas trouvé. Je m'en souviens, ça existe dans ma mémoire, mais bref, Innocent. Marc-André Lavoie a aussi fait Bluff avec Simon-Olivier Fecteau, notre best.
Oui, 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 on adore.
Il a aussi fait Hot Dog, le film, et il n'y en aura pas de facile.
Écoute, Hot Dog, moi, j'ai jadis regardé en famille, avec ma famille. On l'écoutait à la maison. Je suspecte que c'était une situation où mon père l'avait piraté et nous l'avons regardé. Je me rappelle que c'était un film qui est genre... Écoute, qui a sorti... en 2010 quelques, mais qu'il y avait des affaires
2010,
drôles
je pense.
De Rémi Girard et Éric Salvaille habillés en matrice dedans, et c'est très drôle.
Oui,
là.
Oui, oui. Ben moi, je l'ai vu, ça fait pas longtemps, 2019, je pense. Mm-hmm. J'étais pas en famille, j'étais en boisson, donc ouais. Je m'en rappelle semi, mais j'avais regardé ça, j'avais regardé un film de comment devenir un trou de cul et en faire plaire aux dames, là, ce gars-là, là, Simon, en tout cas, bref. C'était trop
Simon Boisvert?
Simon Boisvert.
Au Chris, là,
c'était trop pour une
soirée. Dans la même soirée, là, t'aurais pas dû...
C'était trop pour une soirée. Ça avait pas rapport. C'est pour ça que je m'en rappelle pas. Mais, tu sais, Marc-André Lavoie semble quand même construire ses films en sketch. On se demande des fois pourquoi ces films ont des si bonnes distributions. Car elles sont de la chiasse. Mm-hmm. Car ils sont de la chiasse. Et c'est probablement parce que Il construit des films où ce que les acteurs peuvent être là 3 ou 4 jours, puis ils ont pas besoin d'être dans plein de scènes. T'sais, fait que c'est un peu innocent, c'est construit comme ça aussi. Le seul acteur qui est vraiment là tout le temps, c'est Emmanuel Bilodeau.
Ouais, ben si tu me permets, je vais faire juste une petite description.
Ben oui, bien sûr. Vas-y fort parce que c'est difficile pour moi.
Ça va être très court, mais regarde. Ça met en vedette Emmanuel Bilodeau, Dorothée Berryman, Bobby Bechereau. Pascal Bussière, Maë Paiement,
Sandrine Bisson. Double Sandrine Bisson, dans
double
un rôle
Sandrine,
double.
Oui. C'est un récit qui met en vedette Francis, un type bonasse et naïf, qui se fait questionner au sujet de crimes qu'il a peut-être commis. Et c'est ce questionnage sur ces crimes-là est une façon d'emballer justement les multiples intrigues slash sketch. Qu'on subit à travers ce film.
Oui, subit, c'est bien. Ouais, il se fait interviewer par Réal Bossé dans une scène qui est similaire à Usual Suspect.
Oui, avec un twist semblable.
Ah ouais, ouais.
Dans les intrigues où Emmanuel Bilodeau, tout le temps Emmanuel Bilodeau, il y en a une avec Bobby Bechereau qui est comme le chum de la sœur
jumelle de sa femme.
De sa femme.
Sandrine. Non, je viens juste de le dire. Là.
Sandrine Brisson. Qui est, gagne 2 millions à cause que lui a acheté le ticket et il y a du remous et de la violence à cause de ça, du punchage. Mm-hmm. Ça, c'est une des intrigues. Il y a une intrigue où il sous-loue son logis d'en haut qui appartenait à sa mère. À une jeune dame qui va qui se ramasse des amants par un média social sexuel qui s'appelle Snatchbook, qui est ma foi vraiment bien recherché. Je veux dire, c'est pas un gars qui écrit des mauvais sketchs qui a juste entendu parler de Tinder puis qu'il a décidé d'écrire tout ça. Fait que là, il y a Emmanuel qui doit dealer avec sa nouvelle locataire, lui, puis sa blonde qui est jouée par Pascal Bussière dans cette timeline-là, que tu sais pas c'est un peu c'est quand ou avant ou après.
Ouais. C'est jamais trop clair, puis ils sont entrecoupés. C'est jamais. C'est pas voici tout le sketch. Tout ça, c'est entrecoupé, là. Fait que genre. Tu sais jamais où c'est que tu te situes par rapport à aux autres histoires, même par rapport à.
En même temps, ouais. On le voit avec des déboires avec Dorothée Berryman, sa voisine d'en face, qui. Des problèmes de crépusculaire cognitif.
Ouais.
Qui dit qu'elle s'est faite voler, remplacer son moteur V8 par un moteur V6. Alors Emmanuel va insulter le garagiste qui a travaillé sur son char. Et que...
C'est les seules scènes qui m'ont fait rire, c'était ça.
Ouais. Et on a aussi une intrigue où ce cher Emmanuel va à son visiter les cendres de sa mère et il fait connaissance d'un criminel caché qui est joué par David Lahaye.
Ah oui,
qui a une copine.
Qui pisse dans l'urne de son père à toutes les fois qu'il vient le voir.
À toutes les fois qu'il vient le voir, oui. Puis. Il y a aussi, je ne me rappelle plus comment connecter, mais il y a une autre intrigue où on apprend qu'il est sorti jadis avec Maë Paiement. Puis qu'il va peut-être revenir. Il quitte une de ses blondes, il veut revenir avec. Ça, je pense qu'il quitte peut-être Pascal Bussière. Il veut revenir avec. Et Maë Paiement, une fois qu'elle apprend qu'il va revenir avec, tue son copain. Ou essaie de tuer son copain parce qu'elle est instable mentalement. Puis là.
C'est un peu la thématique du film. C'est que les femmes sont instables mentalement.
Ouais, c'est un très beau film où ce que toutes les femmes sont des fardeaux, sont fucking désagréables, sont des opportunistes, des crosseuses.
Sont parfois suicidaires et ou veulent tuer du monde.
Puis ça rend la vie dure pour ce naïf bonasse-là.
Innocent qui veut juste le bien du monde. Puis qu'il est tellement dépeint comme un hostie du zazon. Que tu comprends pas comment il fait pour avoir des blondes en premier lieu.
Sérieux? c'est comme le Her québécois parce que lui, il est comme... Dans la même vie, il est sorti avec Maë Paiement puis Pascal Bussière puis Mlle Brisson puis tout ça. Puis là, on est supposé être comme... Eh, je te dis, hein? Puis je suis comme... Moi, là, je... Il est supposé être... Il est un peu une figure aspirationnelle quelque part, là.
Ouais, ben, puis tu sais, mais c'est ça. Puis entre les histoires, sa personnalité change aussi. Elle n'est pas vraiment constante. Tu sais, comme...
Non, c'est ça. C'est vraiment comme un paquet de sketchs entrecoupés.
Moi, ça m'a beaucoup fait penser à... Tu sais, j'aurais pas d'exemple spécifique, mais c'est très italien comme film. Tu sais, en Italie, ben, quelque chose à l'onde,
Madame Sandler italien.
Ouais, Madame Sandler italien dont j'ai déjà parlé au show avant. Lui, c'était un peu comme ça, c'est un genre de bonasse naïf, tu sais, comme les choses lui arrivent. En Italie, il y a beaucoup ça, il y avait beaucoup d'acteurs comiques que c'était comme un peu ça leur personnage, tu sais, des genres de Louis de Funès, mettons, tu sais, où que, ils font des films tout le temps, des fois ils sont des personnages de soutien, des fois ils sont personnages principaux, mais ils ont un positionnement comique, puis c'est comme je suis un peu tweet, puis des affaires m'arrivent, tu sais, puis il est supposé d'être un peu comme le surrogate de la personne qui regarde, t'sais, tu es supposé avoir de l'empathie automatiquement pour lui parce qu'il arrive des choses que tu voudrais pas qu'il t'arrive à toi, mettons. Puis il y a un gars qui s'appelle Toto, je pense, hein, un italien, ouais. Qui s'appelle Toto, qui est un. Puis j'avais regardé un film avec lui, puis Louis de Funès, justement, c'est pour ça que je pense à ça. Puis. Tu sais, c'est comme un vieux processus comique, procédé comique plutôt, qui pourrait être intéressant si le film avait quelque chose à dire qui n'était pas de la crise de marde d'incel de Radio X.
Ouais.
Puis, malheureusement, c'est pas ça que le film a à dire. Malheureusement, je pense que Emmanuel Bilodeau fait son mieux. C'est pas lui le problème dans ce film-là, mettons.
Ben, je pense qu'il n'y a aucun acteur ou actrice, surtout les actrices, c'est le problème.
Ben, les actrices, ça font dealer des chars de marde dans
sérieux,
ça.
Sérieux, là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à Pascale Bussière en disant ça? Ben, Pascale Bussière gets paid, fait que je suis content pour elle, là.
Ouais, ouais.
Mais tabarnak, man. Ça me rendait triste, là. Mais qu'est-ce que tu disais?
Parce qu'elle a fait juste comme. En plus, parce qu'elle a vu ça, tu vois que ça n'a pas été tourné sur une longue période de temps non plus. Elle est toujours dans le lit.
Elle est toujours dans le lit ou dans la porte d'entrée?
Dans la porte d'entrée. Fait que tu sais, elle a tourné probablement un 3 jours max sur un set. Tu sais, c'est même pas dans une vraie maison. Là. Fait que tu sais, je pense que pour elle, c'était probablement de l'argent facile relativement. Les prémices de sketch sont pas bonnes. Tu sais, comme papa est devenu un lutin est une prémisse de sketch plus claire.
Ouais.
Et plus abouti que les prémices de sketch dans Innocent, ou est-ce que tu passes la moitié du sketch à faire genre c'est qui lui, c'est qui elle, d'où c'est qu'ils viennent, c'est quoi qui se passe? Puis là, il y a un punch faible.
Ouais.
Qui vient à la fin complètement parce que c'est tout entrecoupé. Fait que tu sais, déjà si ça avait été un film, un réel film à sketch, oh, je pense que ça aurait peut-être un peu mieux passé. Au lieu d'entrecouper, puis tu sais, puis de pour aucune raison nous dire ben là il y avait cette blonde là, puis après ça il y a eu cette blonde là. Là, il revient avec celle-là. Ah, cette blonde-là, elle a aussi une sœur jumelle. Fait que c'est doublement fourrant. Mm-hmm. Baby Bécheron. Cinq du nez ou je sais pas trop. Tu sais, c'est comme... Souvent, j'étais en train de regarder puis j'étais comme... Qu'est-ce qui se passe?
Ouais,
qu'est-ce que je suis en train de regarder?
Pourquoi qu'on voit ça, là, en
ouais,
ce moment?
Ouais, c'est ça. Tu sais, le montage est crissement... Il y a des... Tu sais, le montage est vraiment, genre, rudimentaire. Fait qu'il y a ça aussi. On ne sent pas toujours bien le changement de timeline.
Ouais.
Fait que des fois, t'es comme... Ça repasse sur la même affaire, puis t'es vraiment juste comme... OK, ça a changé, c'est pas à la même époque, ils sont pas à la même place, ils vivent pas... Tu sais, c'est pas clair, y a rien de clair.
Ouais, tu sais, pas juste comme... Ah, maintenant, il est avec Pascale Bussière. Maintenant, ouais. Il est avec...
Mais y a pas une facture visuelle différente, y a pas des cheveux différents, tu sais, tout est pareil. Fait qu'à un moment donné, c'est... T'sais, je pense que quelqu'un qui maîtrise mieux, mettons, ses outils, pourrait peut-être faire ça, puis ça pourrait être intéressant. Mm-hmm. C'est vraiment pas ça qui se passe. C'est vraiment pénible as fuck. J'ai trouvé. Puis ça m'a vraiment surpris que, tu sais, c'est juste, ça fait 6 ans que c'est sorti.
Ouais.
Ça fait pas longtemps, là. On faisait les voyeurs de vue pas longtemps après la sortie de ce film-là. Tu sais, comme je regardais qu'est-ce qui était sorti à peu près en même temps, puis je suis comme, ah ouais, on a commencé à faire les voyeurs de vue pas longtemps après ça. Là.
C'est. Sérieux, moi aussi, j'ai comme 2017, j'aurais l'impression, tu penses tout le temps qu'il y a comme quelque chose dans, je veux pas, on dirait que quand on regarde un mauvais film, j'ai tout le temps l'impression comme, ah oui, c'est sorti entre 2003 ouais. Et 2006.
Mais à cette époque-là, c'était comme ça. Mais là, c'est comme, non, c'est la même époque, là. Ça peut pas assez longtemps pour pas que ce soit la même époque. Puis c'est juste, si c'est gênant, là, ça a pas de sens. Puis tu sais, c'est pour ça un peu, j'hésitais de le faire, ce film-là. Parce que ça fait pas assez longtemps. Puis, tu sais, je me disais, c'est comme triste un peu si quelqu'un... Puis j'espère que Marc-André Lavoie va pas écouter notre podcast.
Ouais.
Mais, parce qu'on essaie de pas faire ça. Il y en a des films de merde qui sortent au cinéma là. Puis on essaie de pas... Tu sais, je voudrais avoir une distance un peu pour qu'on puisse le voir ces films-là.
Ouais, pas chier.
Surtout au Québec, là.
Sort, même si on a fait le Purgatoire des intimes très
ouais,
récemment.
Ben écoute, oui, c'est vrai. T'sais, j'espère qu'il va pas l'écouter, mais après ça, t'sais, ça me sidère que c'est sorti il y a aussi peu de temps. J'en suis qui était non seulement moins homophobe qu'on pensait, beaucoup plus misogyne, pas mal moins misogyne que innocent. T'sais, pis j'en suis, ça comme, t'sais, on a le recul un peu là.
Ouais.
C'est 20 ans avant ça. Là.
L'affaire avec la misogynie de Innocent, c'est que c'est de la misogynie casual de ah ben le lead est un gars fait que l'adversaire ça va être une femme que tu comprends pas pourquoi t'es avec puis hey je te dis les femmes c'est difficile puis
ben,
c'est
on va spoiler la fin de Innocent là. Fait qu'à la fin on a toute la on revient à Réal Bossé puis toute l'entrevue qu'on croyait qui avait été dépeinte comme une entrevue policière une enquête policière et on apprend qu'en fait c'est une entrevue parce que le personnage d'Emmanuel Bilodeau veut adopter un enfant en tant qu'homme seul.
Quelque chose qui est aussi jamais démontré dans aucun de ses sketchs précédents, mais bref.
Il a pas jamais voulu de vouloir d'enfant, il a l'air d'être un enfant.
Ouais.
Mais, puis la morale, c'est un peu comme... Lui, il avait des blondes parce qu'il voulait un enfant plus que tout au monde. Mais ses blondes étaient juste toutes trop folles pour qu'il puisse avoir un enfant avec. Mmh. Fait que là, il va expliquer ça à Réal Bossé. Puis il dit, je peux-tu avoir un enfant même si j'ai pas de blonde? Puis Réal Bossé, il est comme, oui, tu sais, ce que vous me dites là, ça me touche vraiment. J'ai été élevé par un père. Juste un père. Puis
ouais.
Là, c'est comme, hein!
C'est un film pour les pères qui bloquent le pont.
Ah oui, c'est un Fathers for Justice shit.
Ouais.
Mais voyons, Chris, non, là. Ça, là, tu sais. Puis, je trouve que le film.
Tu as enlevé les femmes entièrement de l'équation un moment donné, là. Tu sais, c'est ça, là.
Ouais, c'est ça. Mgtao, là. C'est quoi, men going their own way?
Exactement, là.
C'est ça. Arrêtez de vous crosser. Gardez le pouvoir de votre sperme, là, pour dormir plus longtemps ou je sais pas trop quelle calice d'affaires.
Mm-hmm.
Tu sais, il y a Steven Crowder assis quelque part dans ce film-là qui attend. Là,
ouais.
Avec son gros chest, couleur cigare. De smoke meat.
Son cigare, puis là, il est choqué que Emmanuel Bilodeau crie jamais à la femme que c'est lui qui devrait dicter ses déplacements. Pis...
Tu sais, il y a une scène où ce que elle dit, tu sais, parce que bizarre, elle regarde, c'est quoi, Snatchbook?
Snatchbook, ouais.
Puis elle dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis là. Maman Bédou, elle dit, ah, je sais pas. Puis là, elle dit, sois honnête. Là, je trouve que c'est fantastique. Fourrer n'importe quand, n'importe où. Puis là, genre, ah, bonne nuit. Tu sais? Puis là, c'est quoi cette interaction? Qui pense que c'est comme ça qu'un couple se parle?
Probablement, c'est suivi. Je trouve ça écœurant. Puis là, c'est suivi d'une série de. Liner à peine brainstormé de « Hey, c'est drôle, on parle de fourrer bio, blablabla, bla, bla, fourrer local. » C'est comme vraiment les six premières jokes qui venaient, c'est comme « Ok, ceci va dans le final draft. » Puis là, après, au moins, je trouve de la façon que Pascal Bussière le joue, parce que je trouve qu'elle ajoute un layer, c'est elle, la façon que Pascal Bussière le joue, je trouvais, c'était comme elle voulait pas que tu lui dises que tu trouves ça cool d'avoir un César pour pouvoir fourrer. Elle voulait que vous forniquiez drette là.
Ouais.
Elle ajoute une petite affaire, mais c'est ce qu'elle ajoute, c'est une indépendance sexuelle au personnage qui est pas dans le script là.
Il y a une scène aussi où est-ce que genre Sandrine Bisson a parlé de la grosse graine d'un personnage.
Ouais, du partenaire de Bobby Bechereau qui est Guillaume qui existe juste au téléphone.
Ouais.
Ça va loin là, ce film là.
Puis là, quand elle dit il y avait une grosse graine, là, il dit t'as-tu couché avec? Elle dit oui, mais c'était avant qu'on soit ensemble. Puis là, on est supposé faire ah la garce, ah la salope.
Mais
genre, pourquoi ils sauraient pas ça anyway là, genre?
Ils se parlent pas?
Ils se parlent pas, genre, ouais, c'est ça. Je sais pas, en tout cas, toute l'affaire est absurde, puis c'est vraiment mauvais, puis tu sais. Ça pourrait être de mauvais goût. Je sais pas si je pourrais pas dire que ça pourrait être misogyne, mais ça pourrait être de mauvais goût et quand même fonctionner comme, par exemple, Spetters de Power Woman.
Ouais.
Là, je vais pas surprendre personne en disant que Marc-André Lavoie is no Power Woman.
Ouais.
Mais tu sais, je pense qu'il y a quand même, dans la structure puis dans de quoi ça part, du potentiel. Tu sais, justement, de ce personnage innocent. Ce personnage un peu niais, tweet là, à qui les choses arrivent, est aussi dépeint comme une victime innocente. Puis c'est là que ça devient mauvais, tu sais. Comme un tweet à qui des affaires arrivent, c'est correct. Ça, c'est intéressant, c'est un canevas.
Ouais.
Mais là, le canevas, c'est pour dessiner des pénis en gouache avec tes doigts. C'est une gaspille d'un bon canevas. Tu
utilises un pinceau, motadine, mais non, il n'y a pas ça ici. Là.
Exact.
Fait que, tu sais, regarde, on a tout d'autres choses à dire sur Innocent, c'est absolument terrible. C'est ça, tu sais.
J'ai pas trouvé ça le fun du tout.
C'était, regarde, comme j'ai dit, je me suis levé à matin, puis là, je suis comme, ok, là, j'ai même une journée cordée. Je m'a l'écouté avant d'aller voir Boogeyman. Fait que mon avant-midi, là, Innocent Boogeyman. Ben, Boogeyman, sérieux, par exemple, comme j'ai dit, Boogeyman, pas très bon, mais j'étais comme en même temps rafraîchi comme un air climatisé en canicule, comme la caméra bouge.
Ben là, les acteurs la semaine sont prochaine, bons. On va faire un film qui est supposé d'être bon, là, parce que là, ça fait comme trop longtemps, on a l'air de. Il y a des limites à être masochiste aussi, là, maintenant.
Ouais. Regarde, moi, je me raccroche encore à l'Oasis qui était la gamique, là. Je pense encore à la gamique. les gens à qui je parle, que je croise dans la vie, comme t'as-tu vu la gamique, la gamique ci, la gamique ça?
C'est vrai que l'autre fois, je sais pas si on a parlé quand Guy était là, mais j'étais allé au parc, puis Guy était là avec d'autres gens. Puis quand je suis arrivé, il était en train de parler de la gamique.
OK.
Gamique fever is spreading.
Ouais, ouais, c'est ça. Nous autres, on répand la bonne nouvelle de la gamique, là. C'est vraiment... Mais tu sais, encore là, on a gamique build, mais tu sais, j'en parlais à un de mes amis comment que, clairement, le budget est pas écœurant, mais ça peint un monde.
Mm-hmm.
Puis, il me semble qu'il est innocent. Je sais pas c'était quoi leur budget, là, mais...
Ben... Ils vont quasiment nous le dire parce que le générique est juste Emmanuel Bilodeau qui remercie le monde comme à la fin d'un show d'impro de secondaire.
Ouais.
Interminable liste de Emmanuel Bilodeau qui
dont l'énergie descend plus il continue.
Et qui nomme, bon, le film a été financé par Téléfilm Canada, et qui nomme des gens avec qui j'ai travaillé. J'avais des meetings avec ces gens et j'étais vraiment comme, hey, je suis content, Chris. Que j'avais pas vu innocent quand je devais avoir des meetings avec ces gens-là. Parce que ça aurait été difficile de pas penser à Emmanuel Bilodeau sur le bord d'une route à bien en hiking qui est en train de perdre son désir de vivre.
Puis qui, comme j'ai dit dans ma review Letterboxd, qui le dernier plan du film, c'est lui qui jogue vers l'horizon, puis qui disparaît, puis on l'entend dire plus jamais.
Il dit dans le générique, j'ai joué dans tous les films de Marc-André Lavoie. Il a pas l'air fier de ça, là.
Non.
Sauf celui qui était un 8, Hot Dog. Il est pas dans Hot Dog.
Voilà. Et là, fait que, bref, innocent et coupable.
Voilà.
C'est le temps de passer à notre film de la semaine, mon cher.
Oui.
Puis là, par exemple, là, on discute. Là, on est bien.
Là, c'est un vrai film.
Là, c'est riche. Là, c'est bien. Good eating. Finally, comme l'a dit Gordon Ramsay, finally some good fucking food. on est là pour parler du film de Carol Reed, un des classiques du film noir. The Third Man, qui est réalisé justement par Carol Reed, écrit par Graham Greene, qui met en vedette Joseph Cotten, Alida Valli, Trevor Howard et bien sûr Orson Welles.
Orson Welles a son plus Alex Rose dans ce film, je dois dire.
Ouais.
C'est pire dans, sais-tu, Macbeth qu'il a fait juste avant où il y a une barbe. Là, il me ressemble extrêmement.
Okay.
Là, dans ça, il est glabre. Il n'y a pas de barbe. Glabre. Il n'y a pas de barbe, donc il me ressemble un peu moins. Mais cette période-là, fin années 40 de Orson Welles, il me ressemble énormément.
Écoute, ça regarder ça. Mais pour vous résumer ce classique... Dans l'Autriche d'après-guerre, Holly Martins, un auteur de romans cheap et une lavasse en général, est en visite chez son ami Harry Lime. En découvrant que ce dernier est mort, il décide d'enquêter sur un mystérieux troisième homme qui était présent à son décès. Son enquête va le basculer dans une conspiration qui le bute à l'ancienne petite amie d'Harry et un officier des services britanniques qui s'appelle Calloway. Aussi pour dire, l'Autriche à cette époque-là était comme segmentée comme en quatre armées qui ont libéré la ville. Et fait que là, t'as les Russes, t'as les Anglais, t'as les
Allemands.
T'as les Allemands et tu as les Américains, je crois.
Je crois, ouais.
Fait que,
les Allemands ou les Autrichiens? Non, mais il y a du monde qui parle allemand, en tout cas.
Ouais, tout le monde parle allemand. Fait que je pense que c'est comme peut-être des Autrichiens. Mais bref, t'as tous ces gens-là ensemble. Puis à travers ça, Holly Martins essaye de trouver qui a tué son ami. Puis il se promène là-dedans à travers ça. Il essaie de découvrir c'est qui. Il est pogné dans un labyrinthe constant parce qu'il parle pas allemand et l'allemand n'est jamais sous-titré dans ce film-là. Fait que là, lui, il se promène constamment puis il y a du monde qui parle allemand puis là, il est comme « Ah, qu'est-ce qui se passe? »
Puis le monde, tu sais, comme ça arrive souvent que il essaie de parler à quelqu'un en anglais puis là, la personne baragouine un peu puis là, un autre allemand arrive puis là, il dit « Non, tu sais, dis pas ça, blablabla, c'est, il est ici, il est ça, il est ici, il est ça. » Nous autres, on sait que la personne est en train de dire « Arrête d'y parler. » On sait pas plus qu'est-ce qu'il dit non plus. Fait que, tu sais, toute la première heure, at least, du film, c'est extrêmement aliénant. T'es genre, qu'est-ce qui se passe? Il y a constamment des genres de gargouilles européennes qui viennent la voir. Hello! Hello! You are a friend of Mr. Limes! Puis là, il est genre, ah oui, j'atroce ce dude qui a un sourire 10 pieds de large, qui mesure 4 pieds de haut. C'est vraiment. Ouais.
C'est. Regarde, avant d'aller plus en loin du sujet, je veux. Je parle de l'appréciation du film. Regarde, moi, j'ai adoré ça, mais ça m'a comme pris du temps. Mm-hmm. Parce que, étant quelqu'un qui, depuis une couple d'années, consomme énormément de films noirs et adore ça, l'affaire qui est le fun avec le film noir, ou moins l'affaire que j'aime bien, que je retire du film noir, c'est que c'est un monde... souvent écrasant, mm-hmm. mais ton personnage principal est comme irréductible. Tu sais, t'as un Humphrey Bogart dans Le Faucon Maltais, il est comme, hey, tabarnak, t'essaies de me rouler, mais moi, m'a troulé de l'autre bord mm-hmm. en sacrament. Mm-hmm. Puis, Holly Martins dans The Third Man,
ouais.
il est vraiment une serviette trempe.
Ben, il y a ça aussi, ça arrive. Tu sais, dans Detour, il y a ça. Detour, ouais. c'est une serviette trempe. Il y en a un que je ne sais pas si j'en avais parlé avec Robert Mitchum, où que tout le principe du film, c'est que Robert Mitchum a une commotion cérébrale. Fait que, genre, il n'est pas vraiment capable de parler, il est mêlé partout. Tu sais, ça, c'est vraiment une bonne prémisse. Le problème avec ce film-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chimie avec la fille là, qui joue dedans, que je me souviens plus c'est qui l'actrice. Mais...
Dans quel film?
Je me souviens pas, c'est un film de Robert Mitchum, je peux te le trouver, là, mais tu sais, en tout cas, dans ça, il est vraiment comme. Il est commotionné. Fait que tu sais, okay. comme. Il est pas capable de faire. Il est supposé faire une enquête, puis tu sais, il comprend pas, il fait ben.
C'est parce que dans le. Ben déjà, comme Holly Martin, ce n'est pas comme un nom, justement, tu sais, c'est pas un nom Sam Spade, c'est pas
non,
un
non,
nom badass, mais aussi le fait qu'il écrit. Ça fait partie de son personnage, qu'il écrit des romans. D'action, c'est qu'il était comme une notion très. Ce gars-là aimerait ça être ces héros-là, mm-hmm. mais il l'est pas. Puis, la façon qu'il est comme un petit chien face à mademoiselle à Eva Alida, qui.
Alida Valli,
qui est comme. Elle, qui radie une énergie féminine très véridique de. Il y a un hostie de loser qui est autour de moi. Puis moi, je suis comme triste en ce moment parce que Harry Lime est mort. Fait que là, moi, je suis triste. Puis genre, ça, c'est son ami. Je veux juste lui dire de sauter en bas du pont, mais c'est comme, je suis pas impoli, fait que je vais pas le faire, mais faut que je le gère, puis je le tolère. Puis ça, ceci épuise mes ressources. En tout cas, il est tellement loser. Puis au début, j'étais comme, ce gars-là est loser, j'aime pas ça, mais plus que le film comme ça, je suis comme, ok, c'est un loser. Ce gars-là, il est loser en crise, puis il arrête pas de simper son ami qui est mort.
Ouais, ouais.
Je suis comme, à un moment donné, c'est devenu bon pour moi.
Puis il est aussi vraiment crissement manipulable. Tu sais, le monde, ils disent, hey, on adore tes livres. Mais tu sais, il écrit des livres que tout le monde se crisse, là.
Ouais.
Fait que là, il est genre, ah oui, ah, vous adorez mes livres. Là, à un moment donné, quelqu'un, il demande de faire un genre de conférence, un genre de Q&A, là. Là, tu sais, il sait rien, il a rien à dire sur ses livres, il est fuck all. Tout le monde se crisse de lui, puis lui, il est juste comme, ah ben.
Ouais. C'est ça, il est loser à chaque fois, puis dans le cycle narratif, un moment donné, il abandonne, puis quand un héros abandonne, faut qu'il trouve une certaine ressource en dedans de lui. Pour revenir, mais c'est pas ça que lui il arrive. Faut qu'il se fasse montrer comme voici des affaires terribles qui arrivent, puis il faut que tu nous aides à régler la patente.
Ouais.
Il se fait montrer quelque chose d'horrible.
Ah ouais,
il est comme ok, I guess que je vais le faire. Comme, crime de loser, puis pour un spoiler à la fin, il est comme hey, m'a me réessayé une dernière fois avec la dame, puis guess what? Est-ce que ça va se produire? Non, ça ne va pas se produire. Puis ça, c'était écœurant.
C'est aussi l'affaire de, bon, tu sais, spoiler, je pense que les gens savent quand même, Harry Lime, c'est Orson Welles, donc
oui, oui.
Il est pas mort, vraiment. Puis là, quand il arrive, t'es comme, ah, je comprends pourquoi il simpait ce dude-là.
Ouais, ouais.
Il est extrêmement charismatique. Il l'appelle tout le temps Old Man. Puis, tu sais, il est vraiment charismatique puis mystérieux. Puis là, il disparaît, tu sais. Il arrive, il dit là, regarde, on va garder ça mort, hein. Au revoir. Puis là, il était comme... Quoi? Là, tu sais, il y a vraiment comme... La scène qui est dans le genre de funiculaire, je sais pas trop, qu'on a montré au quiz.
Oui, oui, d'ailleurs, d'ailleurs, ouais.
Tu sais, où est-ce que... c'est ça, Orson Welles est juste... Il arrive, puis là, il lave le plancher avec ce dude-là. Puis là, ça change complètement la donne du film, parce qu'après ça, on est genre, oh shit. Tu sais, non seulement Harry Lime est encore vivant, mais il est crissement cool. Puis c'est une mauvaise personne.
Ouais. C'est vraiment... tu sais, Orson Welles est 8 minutes, genre, dans ce film-là.
Ouais.
Tout le monde parle de lui tout le temps. Puis quand il apparaît, c'est satisfaisant. Puis quand il a son speech, justement, quand ils sont dans la rando, puis là, tu sais, on apprend que justement que Harry Lime, son ami, était impliqué dans... Parce que dans les villes d'après-guerre, tu sais, il y a une économie
De trucs
illicites. Puis que lui, il est responsable, genre, pour avoir... troquer des trucs qui ont été vraiment nocifs à des médicaments de la pénicilline.
La pénicilline diluée.
Puis que ça a rendu certains des enfants vraiment malades.
Mm-hmm.
Puis là, sont dans la grande roue. Puis là, lui, il fait un speech. Dans la grande roue, il voit du monde de vraiment haut. Puis là, il dit comme, si tu pouvais avoir 20 000 piastres pour chacun un de ces points-là qui disparaît, qu'est-ce que ça te ferait? Puis ça, c'est maléfique, et c'est comme ça que du monde extrêmement puissant pense en ce moment.
Ouais,
c'est totémique et écœurant, mais en plus, c'est vraiment comme, il est cool par exemple. C'est qui est cool, man. Il a tellement de swagger. Puis
il a mal au ventre, là. Il a besoin des genres de pastilles. Là,
ouais, pour... ouais. Ouais, il a besoin de pastilles. Comme, hey, c'est dommage qu'il n'y ait plus ces pastilles-là en Europe. Ben, sais-tu ce qui est dommage aussi? Trafiquer de la pénicilline, c'est pas bon. Mais il est mille fois plus cool que Harley, parce que lui, il est juste comme, hey, mon ami! Puis là, oh là là, tu sais! Il socle la crotte, puis c'est vraiment une situation de Vincent Guillaume Otis dans Norbourg de jouer quelqu'un de. Du papier journal 30, là, tu sais, il y a un comme qui a très peu de colonnes.
Ouais, ouais, ouais.
Qui s'en sort, hein. Puis, regarde, j'ai vraiment aimé ça, puis ça, c'est même pas en rentrant à l'aspect visuel du film, mais toi, t'as-tu d'autres affaires à dire?
Ben ouais,
ça?
Ben je voulais parler de l'aspect visuel du film,
ben, vas-y.
Qui est... la caméra est souvent cantée.
Non, regarde.
Pas constamment, mais souvent. Mm. Puis c'est souvent très... oppressant, tu sais, comme on voit jamais pas le ciel, mais tu sais, il utilise Carol Reed utilise les techniques de Citizen Kane. Fait que ça, à un moment donné, il est genre à l'opéra ou au théâtre, quelque chose, puis on voit le plafond. Fait que là, il nous laisse savoir, tu peux voir le plafond, mais tu vas pas le voir. Mm-hmm. Fait même quand il est dans la rue, non seulement il fait jamais soleil, on voit pas le ciel. La caméra est toujours cantée pour pas qu'on voie le ciel. Tu sais, c'est super comme.
T'as un. Petit triangle de ciel, des fois, mais juste pour voir qu'il est entièrement noir.
Ouais, ouais.
Sinon, c'est des structures oppressives détruites par la guerre.
Mais il fait soleil quand Orson Welles est là. Parce que tu sais, t'as toute la scène que. Tu sais, il va le rejoindre à la grande roue. Puis là, il fait le gros soleil tapant. Puis tu le vois juste marcher. Mm-hmm. Tu sais, là, c'est comme. Moi, j'ai toujours ça, genre des montages de monde qui marche. Je trouve ça inutile. Mais dans ça, c'est comme. Oh shit. Ça va mal aller. Puis la musique aussi, on n'a pas parlé de la musique.
Oui.
Qui est au zither. Le zither qui est comme un instrument à cordes. Ça s'apparente à une guitare, mais pas vraiment, parce que c'est juste tourné d'une façon.
Mm-hmm.
Puis ça fait comme... Ça fait juste un son, dans le fond. Mm-hmm. Ça a comme 50 cordes, mais ça sonne tout le temps pareil. Fait que tu peux juste faire des trucs assez répétitifs dessus, avec des fois un petit drone, là, wow, wow, en arrière. Fait que c'est comme, si j'ai bien compris, c'est un enfant qui était assez rare et super difficile à jouer. Et à ce jour encore, c'est super associé à The Third Man, cet instrument-là.
Tu vois, comme avec Holly Martins, le zither, j'aimais pas ça au début, mais plus que ça continuait puis c'était tout le temps ça, je vais être comme, ah, ok, ouais, c'est ça.
Ouais, ouais.
C'est ça qui est dedans, puis là, l'étrangeté, la patente, ça m'a commencé à faire comme, ok,
parce que c'est ça, ça fait de la musique quand même, c'est pas inquiétant, c'est comme beau, c'est comme chaleureux un peu.
Mais quelque chose comme de vieux. Ceci vient des vieux pays, entre guillemets.
Ouais, ouais. Mais puis aussi, tu te rends compte que tu peux pas faire tant d'affaires. Tu sais, avec une git, tu peux faire plein de sons, même avec une git acoustique, tu sais. Mm-hmm. Mais le zither, tu peux juste faire des genres de patterns mélodiques qui sonnent tout le temps pareil. Fait qu'à un moment donné, t'es comme, oh, je suis vraiment tanné d'entendre ce tabarnak de zither-là. Ça devient stressant, tu sais. Puis ça, c'est comme... c'est La juxtaposition, tu sais, comme... c'est quoi un autre exemple? Tu sais, une scène super violente qui a une toune joyeuse par-dessus, là.
Ouais.
C'est un peu ça que The Third Man fait, dans le fond. Mais de manière tellement weird puis tellement champ gauche que, tu sais, tu passes une demi-heure à être genre... Qu'est-ce que j'entends? Pourquoi c'est tout le temps joyeux? Tu sais, puis à un moment donné, t'es comme... Pourquoi c'est tout le temps joyeux?
Arrêtez! Ouais, c'est comme... toute Vienne... est indifférent à Ollie Martins. Puis là, il est comme... Ollie Martins est comme... Pourquoi vous me répondez pas? Pourquoi je vous comprends? Pourquoi vous shiftez pas autour de moi? La musique aussi est comme indifférente à lui.
Ouais, ouais, c'est
le
ça.
Monde de Vienne, ils vivent leur vie. Là, ils s'en calissent.
Puis on a la scène à la fin dans les égouts aussi, qui est quand même une scène d'action, early scène d'action iconique.
Ouais.
Qu'on a revu... T'sais, évidemment, j'ai pensé au Fugitif là, de Andrew Davis. Là.
Absolument, oui.
Mais tu sais, comme toutes les scènes dans les égouts, tu peux pas faire une scène dans un égout que c'est, ça n'a pas un peu rapport avec The Third Man non plus. Là.
Ouais, qui encore là, tu sais, tout le noir et blanc, le clair-obscur est vraiment tellement parfait puis tellement beau. Là. Puis aussi, justement, là, éventuellement, justement, Harry Lime est chassé. Puis un moment donné, lui aussi, il est pris dans le labyrinthe où, que, un peu comme Ollie plutôt dans le film, un moment donné, il y a une place, puis là, il y a plein de différents soldats qui courent après. Puis là, lui, il y a comme plein de tunnels, puis il entend des soldats crier. Fait que là, les cris viennent de partout, il sait pas où aller.
Ouais.
Puis il est comme saisi, pogné là-dedans. C'est tellement cool, là. En tout cas, c'est vraiment incroyable, tu sais. On l'a tous regardé sur Criterion Channel, j'imagine. Puis tu sais, sur Criterion Channel, il y a comme... d'ailleurs, premier commentaire qu'il y a avec, c'est avec Dr. Soda et Tony Gilroy. Alors ça, c'est dans mes intérêts. Puis je l'ai écouté comme quasiment immédiatement. Fait que bien sûr, il y avait des commentaires. Puis le commentaire était très bon, là. Le Dr. Soda, il est fucking renseigné parce que l'assistant réalisateur, c'est le réalisateur britannique Guy Hamilton.
Mm-hmm.
Puis il a travaillé avec lui, fait que là, il y avait plein d'informations inside. Fait que là, c'était très intéressant, mais il y a aussi un certain plaisir à regarder ce film-là, puis ne pas vraiment être plugué sur le dialogue, puis de juste le regarder visuellement. Okay, ouais. Là. J'étais juste comme, tu sais, déjà là, toute la caméra cantée. Toutes ces affaires-là, les compositions sont tellement écœurantes, c'était vraiment bon. Là. Moi, c'était comme. Le film, fréquemment, là, c'est comme le mime de la face de Vince McMahon qui capote progressivement. Là. J'étais souvent de même durant le film. Là. Quand il y a une porte entre-ouverte, genre au poste de police, puis la pancarte en avant est écrite comme police russe, puis tu vois à l'intérieur du bureau, tu vois les policiers dans l'entre-porte, je suis comme.
Je vais te dire, même dans To Catch a Killer, tu sais, que j'ai dit, la cinématographie est super belle, tu sais, c'est vraiment bien réalisé. Souvent, c'est un peu flashy, tu sais, c'est un peu genre. Je suis supposé de regarder où est-ce que la caméra est, puis qu'est-ce qu'il y a dans la caméra, pas tellement qu'est-ce que le monde se dise.
Mm-hmm.
Mais dans Third Man, ça fait abstraction de ça complètement.
Ouais, c'est vraiment de toute beauté. Je sais déjà que je vais le revisiter comme à l'avenir à cause de ça. C'est tellement beau. Puis aussi, comme tu sais, des caméras crantées, comme aussi, il y a une affaire que ça flatte mon cerveau, c'est que ça ressemble à des cases de bande dessinée. Parce qu'en bande dessinée, tu vas canter la caméra parce que ta page a déjà une grille. Puis pour briser la monotonie de la grille dans l'image, tu vas canter un peu l'image, puis tu vas aider l'œil à glisser à la prochaine case.
Ouais.
Puis j'ai l'impression, moi, d'avoir lu 1000 comics que c'était des illustrateurs américains, que c'est comme eux autres qui ont écouté The Third Man back to back. C'est comme ça que tu structures une image, une case, une image narrative léchée et lisible.
Ben tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien, c'est un grand film. Là, c'est comme, ça a gagné la Palme d'Or d'ailleurs, comme on a dit à notre quiz.
Ouais.
Une des premières Palmes d'Or. Puis, tu sais, je pense que quand j'étais plus jeune, tu sais, moi j'avais déjà vu ou je l'avais vu en partie à l'école, tu sais, comme. C'est le genre de film qui fait partie des meubles que j'ai jamais vraiment... Je me suis jamais attardé à ça plus jeune. Parce que... souvent quand je regardais des films de même, je comprenais pas, tu sais, je catchais pas trop le rapport, là, pourquoi ça se pourrait être si bon que ça. Pis c'est le genre de film que c'est quand t'as vu plus de films que tu fais, ah ouais, ok, tu sais. Non seulement ces affaires-là que j'ai vues ailleurs viennent de quelque part, ça a jamais été égalé.
Ouais, il y a. C'est pas pareil, mais il y a quelque chose de semblable, mettons, avec le samouraï de. Ouais, ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Simplicité super bien exécutée, là.
Exact.
C'est ça. Ça, c'est pas exactement. Ben, la simplicité d'histoire, peut-être pas la simplicité de plan. Mais en tout cas, non. C'était vraiment merveilleux comme.
Oui, parce que ouais, les plans sont plus. Tu sais, dans le samouraï, les plans sont. C'est du minimaliste. Tu sais, des fois, il n'y a rien. Genre, c'est juste Alain Delon avec, contre un mur avec pas de plante, pas de table, pas
des
rien.
Des rectangles de lumière, peut-être.
Ouais, c'est ça.
Tandis que Dottleman, aussi, tu sais, ça se fait un festin visuel d'être dans une ville d'après-guerre qui a, qui a mangé une volée. Fait que tu vois comme quelque chose qui ressemble un peu à une maison, mais qui est toute détruite du rebut. Puis en haut de toi, dans le coin, t'as Orson Welles en silhouette. Ouais, même si c'est la nuit, mais tu vois juste un petit point de lumière parce qu'il y a un calice de gros cigares. Puis c'est comme molto bene, là, les amis. Là.
Ben, c'est ça. Tu sais, après ça, on se demande où s'en va le cinéma maintenant. Mais ça fait longtemps que le cinéma s'en va pas dans le sens de Third Man, là, les amis. Ça va être correct, mais ça sera plus des Third Man.
Exactement. Ça va être vraiment difficile de retourner là.
Voilà.
Mais, bref, hautement recommandé, chaudement recommandé.
Oui,
si vous
êtes
sur Criterion Channel, clenchez-vous ça, s'il vous plaît.
Je pense qu'il fait partie permanente. Je pense qu'il fait partie permanente du Criterion Channel. Il est vraiment toujours là. Fait que, il va jamais disparaître. Il va jamais être enlevé sous nos pattes comme Lac Mystère. Là.
Ouais, ça. Une autre affaire, une autre raison pourquoi c'est bon. Tu sais. Mais avant qu'on termine, Alex, on te trouve où sur Internet cette semaine?
Sur Twitter, je suis Alex Rose avec deux petites barres à la fin. Je suis également ça sur Letterboxd. Et sur Instagram, je suis soit Why Does It Exist ou Alex Lille Journal. Vous pouvez aussi te trouver de temps en temps à cultmontreal.com. Et à l'espace public à tous les derniers dimanches du mois.
Alors, ça va être quand, ça, le prochain dimanche?
Ça va être demain, quand vous entendez ça.
Alors, soyez là. C'est quoi le thème du quiz?
Le thème, c'est l'année 1980.
Oui. Alors, revoyez votre année 80 et venez participer au quiz. On a
Je vais vous donner un petit spoiler. L'année 1980, c'est comme la dernière année des années 70, plus que la première année des années 80.
Alors, soyez là, ça va être vraiment le fun. Nous aussi, on vous invite, on va avoir un quiz aussi au cinéma moderne début juin. On l'a pas encore annoncé, mais alors, restez à l'affût pour ça. Vous pouvez me suivre à Tony Bellisle sur Twitter, sur Instagram, ainsi que sur Letterboxd. J'ai une infolettre qui devrait avoir une nouvelle édition très bientôt qui va sortir au yannickbellisle.substack.com. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés et allez voir des vues.
Yeah.